Dans la collection Sur les lieux, retour vers les années 60, quand le monde de l'architecture découvrait une utilisation du béton massive pour construire ce qui ressemblait à des pyramides tout au bord de la mer. Le terrain proposé à son architecte était un marais battu par les vents et fréquenté assidûment par des moustiques. De ce décor ingrat naquit pourtant un lieu visité et apprécié par le général de Gaulle. Et vous aurez deviné, Hervé, où nous nous rendons.
D'autant que ça me rappelle des souvenirs. Pyramide plus béton, c'est la Grande Motte.
Oui, Hervé, c'est un élève de Jean-Paul Sartre qui a été nommé pour créer cette ville ex nihilo. Jean Balladur, architecte en chef et urbaniste du projet, a bénéficié d'une époque où les programmes nationaux pour le développement et l'aménagement des régions françaises battaient leur plein. On lui doit cette phrase. « Si j'étais Dieu, je me méfierais des architectes. Ils sont les instruments subversifs du projet secret de l'espèce humaine. » Reconstruire le paradis perdu.
Bon Julie, t'as ton maillot ?
Oui, une pièce.
Tes palmes ?
Oui, jaune et noir.
Masque ?
Lunettes.
T'as pas peur du béton ?
Du béton ? Mais Camille, tu m'as pas dit qu'on allait à la plage ?
Je t'ai pas dit, mais à la Grande Motte, il y a un peu de béton.
La Grande Motte, la station édifiée de toutes pièces dans le cadre de l'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, vient de passer le cap de sa première vraie saison touristique. Été 69, nous avons vécu l'an 1 des pyramides, étonnante architecture d'une ville jaillie du désert.
On avait décidé avec Julie d'aller voir la Grande Bleue. On nous avait dit la Côte d'Azur, c'est l'enfer, c'est surfait, c'est fini. Alors on avait fait cap vers les plages du Languedoc, plus belles, plus sauvages. À la sortie de Montpellier, on s'était extasié sur les étangs et les flamants roses qui attendaient le printemps, puis on s'était enfoncé dans une pinède épaisse en suivant les panneaux La Grande Motte. On frissonnait déjà à l'idée d'enfoncer nos pieds dans le sable. Sauf qu'en débarquant sur le port et la plage, on a senti comme un truc bizarre dans notre dos. On s'est retourné, nos baskets à la main, et on a levé les yeux. Devant nous, une forêt de géants, des pyramides de béton dressées là, en bordure de mer. Un paysage brutal et fou, une cité des années 70, vestige d'une civilisation qui aurait réclamé son droit au soleil et obtenu à coups de pelleteuse son bout de plage. Des centaines d'appartements avec loggia s'entassaient sur les façades et les flancs de ces pyramides découpées dans des feuilles de béton, cage à lapin version plein sud. Avec Julie, on nageait en plein rétro-futur. À la terrasse d'un café, on nous a dit qu'à la Grande Motte, il y avait 10 000 habitants à l'année. Et pas que des vieux qui se la coulent douce hors saison, hein. Une école, un collège et même un lycée, des dentistes et des otorinos. Bref, toute une vie. Mais quand on a appris que la Grande Motte avait reçu le label patrimoine du XXe siècle, c'en a été trop. On a laissé tomber nos pelles et nos râteaux, on a remis nos baskets et on a cherché à comprendre ce qui s'était passé ici, à la fin des années 60. Sous le béton, la plage, un documentaire de Camille Jusa et Julie Béressy.
Et regardez ce que j'ai trouvé, un valeur actuelle de 70. Et le titre, quand même, c'est quand même quelque chose. Sarcelles-sur-Mer. Paris d'irresponsable.
C'est combien de temps après le début de la construction ?
Bah, 70, les premières pyramides, c'est 68, donc c'est 2 ans après.
Odile Bezem, architecte.
C'est pas du tout laudatif, quoi. Au contraire, c'est très critique. Voilà, ils voient les choses en noir, ça va jamais marcher. Enfin bon, voilà.
Je vous ai amené des photos. Je vous avais dit que je vous amènerais des photos. Quand on voit le site de la Grande Motte, il y a 40 ans, voilà. Voilà le port où nous sommes. 1967, donc c'est le début du creusement du port, c'est en 65. Et donc les premières pyramides ont été construites en 67, 68, le Provence et le Grand Pavois.
Il n'y a rien d'autre ?
Ben, il n'y a pas grand-chose, non. On peut dire qu'il n'y a pas grand-chose.
Donc, pyramide en béton. Hein, le béton blanc est vraiment une des caractéristiques et faisant partie du cahier des charges de l'architecte, hein, le béton blanc. Et puis, ce qui peut nous interroger, ce sont ces ouvertures très géométriques, très dessinées, que l'architecte Jean Balladur appelle des résilles et qui offrent à ces pyramides un dessin tout à fait original. Puis sur cette photo, on voit les deux digues du port on voit derrière la terre, et puis sur cette terre, il n'y a aucune plantation. On est vraiment, aucune végétation. On est dans quelque chose de très minéral, de très plat. Et donc, on a du mal à imaginer la ville aujourd'hui avec cette végétation présente, luxuriante, et qui ombrage la vie des touristes et des vacanciers. Quand on voit ça, c'est assez impressionnant.
Ça paraît, quand on n'est pas habitué à ce genre de paysage, ça paraît assez fou d'ériger comme ça des bâtiments de 9 étages en béton brut au bord de la plage.
C'est dans les années 60 que l'État, puisque c'est une volonté de l'État, décide d'aménager les 180 km de côte qui vont de la Camargue aux Pyrénées. Et donc pour ce faire, ils vont mettre en place ce qu'on appelle couramment la mission Racine, mais qui est en fait la mission interministérielle pour l'aménagement du Bas-Languedoc et du Roussillon, donc qui a été présidée par Racine. Et cette mission va s'occuper d'aménager tout ce grand territoire et de prévoir 6 unités touristiques, c'est le nom qu'ils vont donner à ces opérations-là. Une unité touristique regroupant des anciennes stations balnéaires qui étaient déjà existantes, des créations ex nihilo, comme la Grande Motte, et puis des espaces naturels protégés. C'est-à-dire que c'est vraiment un schéma global d'aménagement de toute cette côte. Il y avait beaucoup de vacanciers qui venaient du nord de la France et de l'Europe du Nord, mais ils ne s'arrêtaient pas ici parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure pour les accueillir. Donc ils partaient directement vers l'Espagne, sans s'arrêter ici, ou vers la Côte d'Azur. Mais la Côte d'Azur était peut-être une clientèle un peu moins, entre guillemets, populaire que les vacanciers qui partaient en Espagne. Donc il y a vraiment eu cette volonté d'arrêter les vacanciers pour qu'ils ne partent pas vers l'Espagne.
Parce que la Côte d'Azur est devenue pendant les mois d'été une région surpeuplée, parce que chaque année le nombre des gens qui prennent leurs vacances au bord de la mer augmente, un projet est né. Celui de créer et de développer les ressources touristiques des 180 km de côte du Languedoc-Roussillon. Plus de 2000 hectares de terrain ont déjà été réservés dans ce but. Les premiers travaux d'aménagement doivent comporter l'assainissement du littoral, la lutte contre les moustiques et la construction de routes reliant entre elles les différentes plages.
On avait un littoral qui, à la différence du littoral de Provence, témoignait d'héritages bizarres.
Jean-Paul Vol, géographe.
Bizarre. Un, c'était pas un littoral rocheux, sableux. Or, sableux, c'est pas très beau. Ah, il faut dire ce qui est. Alors, regardez les publicités qui étaient faites dans les années des congés payés avec les trains qui arrivent en gare de Provence. Ils n'arrivent pas en gare du Languedoc. Le Languedoc, il était en marge. Mais en même temps, il offrait un territoire de conquête. Et ça, c'est important parce que on est dans les années 60. On se situe à l'aube de ce qu'on va appeler plus tard les Trente Glorieuses, avec l'idée qu'il faut dépasser la réalité du temps présent pour se projeter vers un futur souhaité.
Au seuil de la Camargue et du Languedoc, le domaine de la Grande Motte constitue la charnière de cette nouvelle Floride que l'État veut faire surgir des marécages. Jusqu'à présent, les chevaux sauvages et les cavaliers ont été avec le Mistral les seules âmes du marais. Dans 5 ou 6 ans, le galop des chevaux sera remplacé par le claquement sec des balles de golf. Il est prévu de créer ici une station balnéaire dotée de nombreux aménagements sportifs et comportant des villages de vacances de conception moderne.
Le tout se passe, je dirais, dans une sorte de vase clos, mais ça correspond bien à la vision gaullienne de l'aménagement du territoire. Face à des pseudo-oppositions locales, la dimension de la décision centrale s'impose. Et elle s'impose avec force. Elle est un point fort d'organisation de la façon de faire. Et la mission qui est mise en place va transformer en quelque sorte et les mentalités, jouer sur les pouvoirs et transformer le territoire. Il fallait avoir de l'audace, il fallait avoir de l'ambition. Si aujourd'hui on faisait ça, mais on dirait on n'y arrivera pas. On est en 1965, avec beaucoup moins de moyens. Et on y arrive.
Les affaires françaises maintenant. Tout d'abord, les derniers échos du voyage du général de Gaulle, voyage sur le littoral du Languedoc-Roussillon. De Montpellier, nos envoyés spéciaux Jean-Pierre Elkabbach et Raymond Tortora.
Les trois heures passées ce matin par le chef de l'État dans trois des futurs centres de la nouvelle Côte d'Azur française lui auront permis de mieux se rendre compte de l'ampleur des travaux d'aménagement des 180 km de littoral du Languedoc-Roussillon. Saint-Cyprien, station déjà en service, mais surtout le Cap Barcarès et la Grande Motte, station prioritaire, n'ont maintenant plus de secret pour le chef de l'État qui, toute la matinée, en hélicoptère et sur le terrain, a attentivement écouté les explications de M. Pierre Racine, le président de la mission interministérielle pour l'aménagement du Languedoc-Roussillon. Le général de Gaulle a dit ce qu'il pensait de cette visite des centres touristiques français. C'était à Saint-Cyprien.
Le tourisme, les loisirs sont une part fort importante de la civilisation moderne. Et la France l'a compris un peu partout, et je vois qu'elle l'a compris spécialement ici. Encore une fois, je m'en réjouis, c'est une activité de plus que notre pays ajoute à toutes les siennes. C'est en outre un débouché nouveau pour ses enfants, et c'est un service qu'il rend à l'humanité tout entière, qui dans le dur labeur de notre époque industrielle a besoin de trouver des lieux organisés pour son repos et pour reprendre ses forces à tous les égards.
Les architectes ont été nommés, hein, donc on est dans les années 60, on n'est pas maintenant, parce que maintenant c'est quelque chose qui semble inimaginable. Donc Jean Balladur, il est né en 1924, il a étudié la philosophie, il a été l'élève de Jean-Paul Sartre, et puis après la guerre, il s'est tourné vers l'architecture. Mais avec une idée très humaniste, il a été très intéressé par la sociologie, il trouvait d'ailleurs que les architectes de son époque ne se préoccupaient pas assez de l'humain, de la sociologie, voilà. Et donc il a été nommé pour créer une ville complètement nouvelle.
Nous rentrions de vacances, nous passions en général le mois d'août à Sainte-Maxime, donc sur la Côte d'Azur, qui est une région luxuriante, vallonnée, magnifique. Et mon père, qui venait d'être nommé donc architecte de la Grande Motte, a voulu faire le détour en rentrant.
Claire Balladur, la fille de Jean.
Et c'est vrai que quand nous sommes arrivés dans ce pays, nous nous sommes demandé où notre père nous avait amenés. Parce que c'était un lieu désert, où il n'y avait que des étangs et du sable. Ça sentait très mauvais, il y avait des moustiques partout, et on n'avait pas très bien compris pourquoi. On a commencé à venir un petit peu plus souvent en 68, où la première pyramide a pu être élevée. C'était quand même très en chantier encore. C'était assez beau, il y avait une très belle lumière, ça je me souviens très bien. On était donc dans un appartement au sommet de la pyramide, là sur le port. Il y avait une lumière merveilleuse, avec la mer devant, et c'était assez enthousiasmant. Mais autrement, c'était encore très vide.
Vous dites que c'était très enthousiasmant, c'est-à-dire que vous avez vu l'enthousiasme de votre père ?
Ah oui. Bien sûr, il l'a toujours dit, hein, c'était l'œuvre de sa vie. Et il mesurait bien la chance que ça représentait pour un architecte de concevoir une ville et la responsabilité qu'il en avait d'ailleurs. Parce qu'il disait toujours que l'architecture avait une utilité, à savoir apporter une protection, un abri aux personnes, du confort et un certain bonheur d'être là. Voilà. Donc oui, il pensait à tout. Et plus tard, après, quand la Grande Motte était construite, c'était un peu sa chose. Hein. Il se promenait dans la rue, il voyait que les dallages se déchaussaient, il râlait, il allait voir le maire. Enfin, mais c'était sa chose. Quoi.
Quand j'ai commencé à poser ces pyramides assises au bord de la mer, elles ont paru un peu étranges. Alors, les pyramides d'abord, parce que le Languedoc-Roussillon est une zone rigoureusement horizontale, avec la mer à son extrémité ici, et il m'a semblé, en premier temps, que un profil pyramidal était un profil qui, parce qu'il assure un mouvement continu du sol à l'immeuble, recrée un relief artificiel et s'associe beaucoup mieux au site d'un paysage horizontal que, par exemple, une tour verticale qui a un côté agressif et qui est une rupture avec l'horizontale du sol.
Bon, alors là, c'est la salle fraîche.
C'est combien de mètres carrés ?
Là, c'est grand. Recensement, je ne sais pas si j'ai dit la vérité, mais c'est très grand.
Vous avez dit combien ?
Je ne sais pas.
Laurence Grégoire, professeure des écoles.
Là, il y a un grand jardin. Enfin, voilà, c'est assez grand. À l'époque, tout était ouvert. Il n'y avait aucune clôture. Donc, les gens qui allaient en vacances à l'hôtel Méditerranée, comme la mer est en face de l'autre côté et qu'on n'avait aucune clôture, les haies n'étaient pas poussées ni rien, ils passaient à travers la maison pour aller à la mer. Donc nous, on était attablés dans le jardin, etc., dans la salle fraîche là-dessous, puis on les voyait passer. On disait « Bonjour, vous cherchez quelqu'un ? Vous cherchez quelque chose ? Ah ben la mer, c'est là-bas. » Bon, alors ils passaient là.
Dans votre jardin ?
Ouais, dans le jardin, oui. Alors que c'était normalement privatif, quoi. Bon, ça c'est une maison dessinée par Jean Balladur, commandée en 1968.
Pourquoi elle a été construite si tôt, cette maison, en fait ?
Ben parce que, comme en fait, mon oncle avait toute sa vie, et sa femme, ma tante, avaient toute leur vie, Jean Francotte et Mitou Francotte, avaient toute leur vie vécu à l'étranger, pour des missions pour l'AOF, etc. Ils étaient détachés auprès de l'OMS, parce qu'il avait le double titre d'ingénieur et sanitaire, ingénieur sanitaire. Donc, il rendait des zones insalubres, salubres, et il asséchait, il traitait les eaux, les moustiques, etc. Donc, automatiquement, quand le général de Gaulle a eu ce projet en 64, on l'a envoyé, lui, en mission. Ils se sont fait manger par les moustiques, et à charge pour eux de chiffrer combien allait coûter cet aménagement du Languedoc-Roussillon. Donc, ils ont dû chiffrer tout ça. Donc, il a dû faire les études, voir comment ça pouvait être asséché, remblayé... Donc, ils s'étaient arrangés en amont de la construction de la Grande Motte. Comme ils étaient très progressistes et très d'avant-garde, ils y croyaient vraiment. Alors que tous les gens du CRU, les gens d'ici, les gens qui aujourd'hui sont très heureux de vivre à la Grande Motte, il y a quelques années en arrière, ils n'étaient pas heureux du tout d'être là. Ils n'y croyaient pas du tout, ils décriaient énormément. Et eux, ils avaient vécu toute leur vie à l'étranger. Il n'y avait pas d'esprit de clocher ici. Donc, ils étaient contents de s'installer ici, comme pionniers. Et c'est comme ça qu'il a fait construire sa villa ici. Immense, lui disait qu'il voulait une case ici. Comme il avait toujours vécu en Afrique, il voulait une case suffisamment grande pour accueillir la famille, les amis, les relations de travail. J'ai trouvé des tas de cartons d'invitation, les préfets, etc., qui sont succédés là. Il y avait des réceptions. C'est pour ça que c'est immense comme maison. Et aujourd'hui, je suis toute seule là-dedans. Ça fait un drôle d'effet. Je ne sais pas si je vais rester d'ailleurs, parce que c'est un peu flippant d'être toute seule là-dedans maintenant. Et cette villa, ils l'ont appelée la villa des dunes parce que c'était dans les dunes ici. Il n'y avait que des dunes. C'était vraiment une bulle de sable, la région là. Quand on arrivait ici, il y avait des vents partout, tout le temps du vent. Une bulle de sable, en permanence. C'était vraiment irrespirable. Moi, j'ai passé toutes mes vacances avec un truc sur la tête pour respirer. Et première fois qu'on m'a emmenée sur le chantier, la maison n'était pas encore sortie de terre, ni le quartier, ni la Grande Motte elle-même. Et j'ai passé toutes mes vacances, hiver, été, printemps, automne, toutes mes vacances ici, dans un chantier, sur la plage, avec pas grand monde, et pas grand monde pour jouer avec moi. Et puis quand j'ai grandi, c'était de plus en plus un chantier. Et quand les immeubles ont été construits, évidemment, avec la forme de ces pyramides sur des socles de 2 étages et l'orientation, et la croissance de la végétation, petit à petit, ça a peigné les vents. Et c'était moins un tourbillon ici. Les vents ont été domestiqués à partir du moment où la Grande Motte est sortie du sable.
Postale.
Béton, béton, béton.
Gros bisous de la Grande Motte.
Celle-là, elle est pas mal, ça donne envie.
Jeu, repos, plage, détente, loisirs, la Grande Motte.
Ah, météo des plages, t'as vu ? Il y a des nuages partout, sauf à la Grande Motte, un beau soleil.
Avenue de la plage.
Donc on est derrière le Commodore, qui est donc un immeuble qui donne sur le Quai d'Honneur. Et on peut voir que dans le profil de cet immeuble, on a des éléments qui font penser à un nez. Et c'est en référence au nez du général de Gaulle et à la visite que le général de Gaulle avait fait en 67 pour demander un petit peu la façon dont la ville allait être aménagée. Et donc... Les pyramides donc, ont un gabarit, mais chaque pyramide est traitée de façon différente par cette résille qui est plaquée devant les façades et qui est très dessinée, c'est-à-dire que les ouvertures sont dessinées de façon très géométrique, courbes ou pas. On a des trapèzes, on a des losanges et puis on a des formes auxquelles on ne peut même pas donner de nom. Parce que ce sont des mélanges de courbes et de lignes droites qui se répètent sur les résilles et c'est ce qui donne cette variété dans la ville quand on y circule. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans toute une période. L'architecture est de son temps, hein, donc l'architecture, elle caractérise vraiment une société à un moment donné. Et c'est vrai que la Grande Motte, c'est les Trente Glorieuses, c'est toute une création artistique, création de Courrèges, de Paco Rabanne.
Est-ce que ça, c'était important pour Jean Balladur, l'idée aussi de donner à voir des formes hors du commun à ses vacanciers ?
Oui, absolument. Il disait que c'était l'architecture de la fête, c'est une architecture de fête. C'est-à-dire qu'on sort des volumes qu'on connaît, des volumes traditionnels. On a donc ces ouvertures qui ont des formes tout à fait originales et surtout très variées. Et donc, c'est une façon de donner aux vacanciers, un décor de fête, qui les sorte complètement de leur vie quotidienne et de leur décor quotidien.
Chaque fois que je revenais, il y avait un nouvel immeuble. Bon, il y avait le Rémar, le Languedoc, la Dame au Lotus, le Saint-Clair. Chaque immeuble avait une histoire, il sortait d'une certaine façon de la terre. Ils en construisaient peut-être plusieurs en même temps. Mais après, on ne pouvait pas s'empêcher, une fois qu'ils étaient terminés, que toutes les résilles de surface en béton étaient posées, on ne pouvait plus s'empêcher de les comparer les uns les autres. Et nous, notre préféré, c'était le Babylone, qui était juste là derrière. Maintenant, on ne le voit plus, il y a des pins qui le cachent. Mais à l'époque, on voyait très bien le Babylone. Et il avait un enchevêtrement de terrasses comme ça, qui recevait le soleil, et c'était très complexe. Et nous, on adorait ce Babylone, et c'était tout à fait nouveau. C'était vraiment de la géométrie la plus fantaisiste possible. Et mon oncle, à l'époque, le béton était très décrié. Hein. On n'aimait pas trop les cités HLM, les villes nouvelles, Benidorm, tout ça, on n'aimait pas trop ça. Et là, ce qui nous plaisait, c'était que c'était un matériau d'ici, le sable. Donc on fait du béton avec du sable, donc c'était quelque part un matériau d'ici. Mais il était armé, c'est-à-dire qu'on mettait de la ferraille dedans, bien évidemment. Mais avec ce béton, on donnait toutes les formes qu'on voulait. Avec le béton, on peut faire des choses rondes, on peut faire des choses cubiques, mais on ne les faisait pas cubiques exprès. Ces formes pyramides, c'était distrayant de voir l'originalité à l'époque qui se dessinait dans le béton. Et on aimait bien le temple du soleil, qui était très original, très, très compliqué. Plus ils étaient compliqués, plus on était contents.
Allée de l'Iliade.
Vous habitez là ?
Ouais.
Vous êtes né là ?
Moi, ouais.
Enfant du pays.
Moi, je suis arrivé en CE1. Moi, j'étais petit aussi.
C'est comment de vivre à la Grande Motte ?
La question qui fâche. ça dépend des périodes, en fait.
L'été, c'est blindé, du coup... on sort pas trop parce que c'est jamais... Enfin, on sort pas trop près des plages là où il y a du monde, quoi. On a nos petits coins à nous, quoi. Après, l'hiver, bah, on sort là, mais bon, c'est pas non plus génial. De toute façon, même l'été, il n'y a pas de jeunes. Hein.
Ouais. C'est vrai ? Il y a quoi ?
Bah, s'il n'y a pas de jeunes, il y a des vieux, hein, concrètement. Bon, ça me dérange pas, on est tranquille. Le cadre, c'est sympa. C'est vert et tout, c'est cool. Non, mais c'est vrai. Ah, on va pas se mentir.
Là, on est dans une ambiance complètement différente.
Voilà, on est beaucoup plus au calme. On est en arrière, en fait, des pyramides. Donc, on est entre... On va se rapprocher de la voie de dessert, ce qu'on appelle la voie primaire. Et donc, on est dans un quartier où il n'y a pas de commerce, donc il n'y a que des habitations. Et puis, on est vraiment sous une voûte de verdure. On a ces pins qui maintenant sont très grands, qui sont des pins d'alignement et qui protègent vraiment la promenade des piétons et des voitures.
En fait, on ne connaît pas du tout cet aspect de la Grande Motte. Hein.
Non, c'est vrai qu'on a toujours une image de la Grande Motte vue du port, enfin la face sur la mer, et que dès qu'on pénètre un peu à l'intérieur, on a des espaces libres qui sont très très dimensionnés. Donc on se rend compte qu'on est souvent dans des parcs, dans des jardins, dans des promenades qui sont très aérées. Jean Balladur a eu cette idée de faire un grand jardin. C'était vraiment son idée, en disant que les vacanciers qui faisaient plusieurs milliers de kilomètres pour venir au bord de la mer, sous une chaleur assez intense, sans climatisation à l'époque, avaient peut-être besoin de se retrouver dans un endroit qui était ombragé et dans lequel on pouvait circuler à l'ombre sans avoir trop chaud. Parce qu'ici, en été, il faut dire qu'il fait très très chaud. Et il va organiser le centre-ville en y implantant des pyramides dressées, parce que ces pyramides vont faire barrière au vent du sud. Donc elles vont protéger tout ce qui sera en arrière-plan de ces pyramides. Et en arrière-plan va se développer tout le quartier des villas, qui sont des constructions beaucoup plus basses, mais qui donc sont protégées par ces pyramides qui font écran au vent marin.
On imagine que ces grands pins parasols, là, sous lesquels on est maintenant, n'ont pas poussé en 2-3 ans et que la Grande Motte devait avoir un visage très différent au début des années 70.
Complètement. Au début, c'était très, très minéral. Hein. Il n'y avait pratiquement pas de végétation. Et puis, il a fallu le temps. Le temps de l'urbanisme est beaucoup plus long que le temps de l'architecture, hein, puisque pour faire pousser la végétation, évidemment, c'est beaucoup plus long que pour faire pousser un immeuble. Donc, ces deux temporalités qui sont pas tout à fait synchrones.
Bon, mon épouse et moi, nous travaillions à l'époque sur Montpellier. Et mon épouse était coiffeuse et moi, j'étais chef des ventes chez Peugeot. Et donc, on voulait acheter un terrain pour faire reconstruire. Et sur Montpellier, tous les terrains, les prix des terrains, à l'époque, c'était 62 000 francs.
Jean Rouvière, pionnier.
Bon, on cherchait, on ne trouvait pas. Et à cette époque-là, on venait se baigner, très souvent le dimanche, entre Carnon et la Grande Motte. Et on a vu, bien entendu, on en avait entendu parler, les pancartes annonçant qu'il allait y avoir quelque chose comme ça, un aménagement. Et là, on s'est dit pourquoi pas, parce que le prix du terrain était à 25 000. C'était pas tout à fait pareil. Alors on s'est dit, on verra bien ce qu'on fera.
Ça veut dire que quand vous emménagez le 20 octobre 69 dans cette maison, vous avez des voisins ?
Oui, j'en avais un. J'en avais un qui était là depuis 2 mois. Et à cette époque-là, c'est vrai que c'était très particulier. On ne recevait pas de courrier. Mon voisin qui faisait le même travail que moi, mais chez Renault, quand il allait à Moggio, il passait à la poste et on lui disait, en lui montrant avec le pied, tenez le courrier dans ce sac, si vous connaissez du monde, vous le prenez. Parce que ça, on l'a vécu quand même, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et donc, on a demandé, bien entendu, on a obtenu petit à petit, d'abord, un bureau de poste mobile qu'on a fait installer au point zéro là-bas, dans une caravane qu'on a gardée. Et puis, petit à petit, on a fait construire la ville. Pour l'école, ça a été pareil. Hein, pour la gendarmerie, pareil. On a fait tout un tas de pression, si vous voulez, pour obtenir ce genre de construction et d'aménagement, parce qu'il fallait quand même que les services fonctionnent, quoi. Enfin, je veux dire, par là, c'était... Il fallait tout. Et ça faisait partie des règles du jeu. Les grands motois avaient des besoins. Des besoins de la vie de tous les jours. Alors évidemment, nous, on est restés 2 ans dans l'obscurité la plus noire parce qu'il n'y avait pas d'éclairage public. C'était normal, je veux dire, par là. Mais on voulait faire avancer le chimdic. Hein.
Est-ce que c'est vous qui êtes là depuis le début ?
Oui, madame.
Depuis quand ?
5 juillet 69.
La mousquée, elle est ouverte depuis 5 juillet 69.
C'était comment, le 5 juillet 69?
Ah, le 5 juillet 69, il n'y avait pas trop de monde.
Vous avez fait un bon chiffre d'affaires, c'est bon.
C'est 50 francs.
Ça m'est resté.
Allez,
voilà, au revoir. Tout le monde.
Alors, on était des commerçants déjà sur Lyon. Moi, mon père était dans le pressing. Il implantait des pressings en France et maman était dans la haute couture.
Marc Évasion, commerçant.
Donc, ils sont venus pour acheter un magasin, des murs à la Grande Motte, dans un premier temps en disant bon, on va acheter là-bas, puis on verra comment ça se passe, pour ou le tenir ou le louer. C'était dans les années 66, je crois, 67.
Qu'est-ce que leur disaient les gens autour d'eux?
À Lyon, on nous disait qu'on était fous. À Lyon, on nous disait qu'on était fous parce que c'était trop d'investissement par rapport à quitter une vie assez aisée. Mes parents avaient une vie assez aisée à Lyon pour réduire considérablement les revenus en habitant la Grande Motte. Mais papa voulait changer de vie, absolument. Il était captivé par tout ce qui était moderne. Papa était très attiré sur la technologie, les choses nouvelles. Et je pense que le fait d'avoir vu les constructions comme ça, l'avait attiré. Et il y avait tout à faire.
Ça veut dire que vous arrivez dans une ville où c'est comment? C'est un chantier permanent?
Il y avait deux bâtiments sur le port. Il y avait l'avenue de l'Europe qui était faite à moitié. L'Isis, c'était des canisses, je m'en rappelle. Il y avait un terrain vague où j'allais jouer au foot. Moi, j'étais déjà mordu de sport mécanique, donc dans l'arrière-boutique, je préparais les moteurs de mes motos. Et sans voir un client toute la journée. C'est vraiment un pari surtout de mon père. Parce qu'on faisait des recettes minables.
Il faut bien voir que la Grande Motte est une opération créée ex nihilo. Et il y avait le problème du poissonnier, parce que le poissonnier disait « je viendrais bien s'il y avait des habitants l'hiver ». Et les habitants disaient « je viendrais bien habiter toute l'année à la Grande Motte s'il y a un poissonnier ». Alors, à un moment donné, il y en a un qui se décide. Alors, c'est un peu pareil pour l'école, c'est un peu pareil. Alors, effectivement, le temps qu'une collectivité s'organise avec tous les instruments dont elle a besoin pour vivre, il a fallu un certain temps. Si vous voulez, les plans, je les ai commencés en 64. Les premiers travaux de remblai et de creusement du ponant sont de 66. Les premiers chantiers de pyramide sont de 67. Les premiers estivants sont arrivés en 68, et donc c'est vous dire que ça a été relativement vite, et qu'il a fallu un certain temps pour qu'il se crée une école, qu'il se crée tous les commerces nécessaires, que se développe, alors ce qui s'est créé tout de suite, c'est les boîtes de nuit, c'est quelques restaurants, c'est bon, les éléments qui correspondaient à la vie estivale des premiers habitants, mais à la vie permanente, il a fallu un certain temps pour que les gens viennent habiter.
Je dirais que Jean Balladur procède par une double réflexion sur son projet, mais sur son objet surtout. La première réflexion, il faut que je fasse un objet qui réponde à la commande, c'est-à-dire accueillir 100 000 personnes pendant les vacances. La deuxième réflexion de Jean Balladur, c'est il ne pourra jamais y avoir que cela, il faut qu'il y ait, et je dis bien, il faut qu'il y ait une ville. Il ne définira jamais la taille, il ne dira jamais quoi, mais il est toujours dans la création de l'idéal urbain. Il ne fait pas simplement que poser l'objet architectural. Il l'enveloppe dans cette dimension que l'architecture doit exiger et qui nous fait passer de l'architecture objet à l'urbanisme espace. Il y a plein d'objets qui sont non obligatoires, mais qui sont parfaitement en accord avec l'idée qu'on va vivre là. Des points de reconnaissance. Il y a deux choses en urbanisme. Pouvoir regarder, donc offrir quelque chose au regard, et deuxièmement, marcher.
Alors, il faut vous dire que je suis une enfant du pays, je suis montpelliéraine,
J'ai fait les Beaux-Arts à Montpellier. Et j'ai fait partie de ces jeunes qui étaient furieux des futurs aménagements de la Grande Motte, parce que ces plages, c'était mes plages. Elles étaient sauvages, magnifiques. Un peu de moustique le soir, mais pas si méchant que ça, contrairement à tout ce qu'on dit. Et j'avais très peur de ces aménagements de Parisiens.
Michèle Goalard, sculptrice.
Et puis j'ai fait, avec quelques camarades, dont Joséphine Chevry, une exposition chez Méwald à Montparnasse. Et là, Balladur est arrivé. Je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas qu'il allait participer à l'aménagement du littoral. Donc je lui faisais bonne mine. Et dès 67, il a demandé à Joséphine Chevry, à moi-même et à Albert Marché de se joindre à son agence dans un grand projet. Et là, j'ai appris qu'était le projet. Mais il m'a convaincue, il m'a facilement convaincue. D'ailleurs, il nous a très immédiatement expliqué qu'une ville nouvelle n'avait pas de savoir historique. Donc il nous demandait de créer des lieux, de s'intégrer vraiment à l'architecture et d'être en dialogue avec les éléments, la mer, etc. et de trouver des idées qui à la fois se joignent à son architecture et en même temps créent des lieux.
Ça veut dire que d'emblée, Jean Balladur a l'idée qu'il faut de l'art dans cette ville?
Je dirais plutôt des sculptures à valeur d'usage. Par exemple, ce que j'ai fait, l'aménagement du parc du Couchant, ou la place de l'Homme, ou ce que j'ai fait devant la Grande Pyramide, c'est un aménagement sculpté. Donc une sculpture à valeur d'usage davantage, vous voyez?
Est-ce que ça a été douloureux pour vous et pour Jean Balladur de voir la Grande Motte décriée comme elle l'a été, notamment, enfin très rapidement d'ailleurs?
Plus que ça. Oui, plus que ça. C'est Chalandon le premier qui l'a décriée en disant que c'était une erreur.
Chalandon, en 71, était ministre de l'Équipement.
Voilà, voilà. Et il y a eu un glaçage. Donc les promoteurs sont arrêtés, on s'est tous posé des problèmes. Et alors après, ça a été décrié parce que c'est la revue Architecture où était Jean Balladur. Et il était au comité directeur et il en est parti. Parce que il se trouvait que c'est... À l'époque, on était plutôt dans les verticales. Et il trouvait que c'était d'une originalité invraisemblable et inacceptable. Donc il a été très décrié par les architectes eux-mêmes.
Et ça a été douloureux pour vous tous?
Oui, absolument, absolument. Mais ça ne nous a pas vraiment posé de problème. Il y avait une vie de famille tout à fait étonnante. Et on entourait Jean et donc on s'est dit c'est pas possible, ça va marcher. Moi, si vous voulez, j'ai entendu la Grande Motte, ça date. Alors, bien sûr, on peut dire qu'elle date des années 68. Mais si vous voulez, moi, je défends toujours Jean par rapport à l'intelligence de sa modée nature. C'est-à-dire, c'est pas un simple cycle répétitif. Il inverse des formes qu'il imbrique et il arrive à avoir une écriture musicale et même... Si vous voulez, c'est pas du Vasarely, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas sec, c'est pas gentil ce que je dis pour Vasarely, qui était un ami de Jean Balladur, mais si vous voulez, il n'y avait jamais rien d'agressif et de raide dans son travail, voilà. Et ça, je pense que ce n'est pas daté, ça ne prend pas de rides aujourd'hui, ça.
Allée des Palombes.
Des habitants de la Grande Motte.
De passage. On est en vacances à la Grande Motte. Tous les hivers, on passe 3 mois.
3 mois, d'accord. Et depuis quand?
Ça fait 3 ans.
Oui, c'est là.
3 ans, oui.
3 ans seulement. Vous êtes des jeunes grand-motois.
Voilà. Ah oui, on est des jeunes. Je ne vais pas vous dire mon âge, vous allez prendre peur. On l'apprécie, quoi.
On aime bien.
On aime bien.
Qu'est-ce qui est bien ici?
Les promenades. Vous vous rendez compte un peu comme c'est plat, comme c'est bien. Vous avez beaucoup d'arbres, enfin ceux qui aiment la nature, quoi. La mer à côté.
Sympa.
Voilà, c'est sympa. C'est des
pour
promenades.
Nous.
Qu'est-ce que vous avez pensé la première fois que vous avez vu ces pyramides en béton?
Eh bien, moi, j'ai été très étonnée, mais agréablement. Ça change de l'ordinaire.
Je n'aime pas tellement le paysage parce qu'il y a beaucoup d'eau autour. Et je me dis, à moindre inondation, on serait tous noyés. Là.
Vous
avez pris un appartement élevé?
Ah, on est au 4e étage. Remarquez, on sera un peu plus haut, on sera encore mieux. Parce que regardez les arbres comme ils sont hauts. Si vous habitez au 2e ou au 3e étage, vous ne voyez plus rien, tout est caché.
Pour l'été, c'est certainement très bien, mais l'hiver, on aime bien voir un peu ce qui bouge.
En plein été, je ne sais pas si c'est tellement bien. Il doit y avoir un monde fou, il doit y avoir beaucoup de bruit. Nous, il nous faut du calme. Du calme et de la tranquillité, voilà.
Le label Patrimoine du XXe siècle, il a été créé en 1999, mis en place par une circulaire en 2000. Et en Languedoc-Roussillon, on n'avait pas particulièrement saisi la balle au bon. Et nous, on se sentait pas, en Languedoc, on ne se sentait pas particulièrement concernés, même si on faisait des protections au titre des monuments historiques.
Michel François, architecte.
C'est vrai que moi, quand on m'a dit « il faut que vous alliez voir la Grande Motte, il faudrait peut-être faire quelque chose à la Grande Motte », je me suis dit « oh non ». Non, pas la Grande Motte quand même. Et même parce qu'en fait, on a l'habitude de travailler sur du médiéval, sur des châteaux du XVIIe, sur des églises baroques. Ou voilà, c'est un peu non pas difficile, mais c'était étonnant. Vraiment, ce qui est frappant à la Grande Motte, c'est que quand on arrive en voiture, on arrive dans du vert, dans une ville verte. Et quand on arrive en bateau, par contre, c'est vrai qu'on a toute cette ville blanche de béton blanc qui est très frappante quand on arrive en bateau. Et puis, c'est l'urbanisme qui est frappant. C'est-à-dire que c'est pas seulement... En fait, nous, on a l'habitude aussi de labelliser des édifices. Un édifice tout seul d'un grand architecte qui est majeur et qui est remarquable. Et quand j'ai commencé le dossier, je venais, puis chaque fois... Je me disais, ah, mais ça, et ça, et ça. Oh, mais là, t'as vu ça, c'est incroyable. Et en fait, chaque fois, on était scotchés par le fait que c'est une ville. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean Balladur est venu pendant 30 ans et qu'il a suivi sa ville et qu'il a suivi les permis de construire. Il a eu cette chance extraordinaire. Enfin, c'est pas Jean Balladur qui a eu la chance, c'est la ville qui a eu la chance d'avoir un architecte qui s'est passionné, qui est venu. Il venait tous les vendredis matin. Depuis Paris, quand même, hein, c'était un investissement. Mais et sur chaque permis de construire qui était déposé, il disait oui, non, vous changez ça, vous faites pas ci, enfin, j'exagère. Rien n'a été laissé au hasard. Et quand on arrive, et encore aujourd'hui, on sent qu'il y a une unité.
Ce qui a été désinhibant pour nous totalement, c'est le label 20e siècle. Parce qu'à la Grande Motte, on attend le ministère du Tourisme, mais on n'attend pas le ministère de la Culture. Et le jour où le ministère de la Culture débarque, en disant, écoutez, vous avez quelque chose d'exceptionnel qui dépasse le formel, mais la Grande Motte a représenté, à un moment donné, dans l'architecture balnéaire mondiale, une avancée. Et donc, on va vous offrir, parce que c'est un cadeau qui est un petit peu tombé du ciel, le label Patrimoine du XXe siècle, et vous serez la seule station à être labellisée dans son ensemble. Ça, c'est désinhibant. D'un seul coup, on se sent mieux, on se sent rasséréné. Et quand on reçoit des amis... Avant de les amener à la plage, on leur fait faire la visite guidée de la ville. Et ça a radicalement changé tout.
Jérôme Arnaud, directeur de station.
Si je pouvais étaler sur une table les brochures touristiques de la Grande Motte pendant 30 ou 40 ans, c'est effectivement comme si la Grande Motte avait tourné le dos à son architecture.
Et vous avez retourné l'appareil photo?
C'est ce qu'on a fait, exactement. Et on a dit, on va assumer notre architecture. Pourquoi montrer la mer? Quand ce qu'on a de singulier, c'est notre architecture. C'est pas notre mer, on a un peu la même mer que tout le monde. Ce qu'on a de différent, c'est notre architecture. Donc on a retourné le photographe et on a véritablement parlé de notre architecture. La Grande Motte n'a aucun budget pour acheter de l'espace commercial. On ne fait pas des campagnes d'affichage, on ne fait pas des campagnes à la radio. On fait venir des artistes qui photographient la Grande Motte, des artistes qu'on laisse un peu en liberté. Et ces artistes produisent des photos dont on fait des expos, qui voyagent dans l'Europe entière. Bref, c'est par le regard des artistes et des créatifs de tout poil que la Grande Motte a trouvé et ses nouveaux ambassadeurs et son nouveau discours. Et c'est plaisant parce que d'abord ça fonctionne et puis surtout on a le sentiment qu'il y a désormais en plus des atouts naturels de la Grande Motte, qu'il y a de l'intelligence là-dedans.
Pyramides, boules de neige.
Des pyramides?
Des boules de neige en forme de pyramide.
Je fais pas ça. Mais...
Tu fais pas de boules de neige du tout?
J'en ai pas là.
Ah, parce que. Ouais, t'en avais l'été.
J'en ai l'été, ouais.
C'est quoi ton signe, Julie?
Lion.
Et je vais prendre deux astros. Julie, peut-être des vacances aux Bahamas.
Alors je gratte.
Vas-y.
Énergie, ouais!
Non, c'est vrai.
Ouais.
Alors gratte les gains.
Alors les gains. 2 euros. Pas mal. On est remboursé, mais on n'ira pas au Bahamas.
Allez, la quête de la boule de neige continue.
Au revoir, madame.
Au revoir.
j'habite au point zéro.
Dans un immeuble.
Moi, j'habite dans un immeuble, les rives du corail au Ponant, et je m'appelle Ambre.
Je m'appelle Noah, j'habite dans le quartier des Villas.
J'habite dans un immeuble et mon appartement s'appelle Acapulco.
Je m'appelle Mohamed, mon appartement s'appelle Impérial 2 et j'habite dans un immeuble.
Je m'appelle Shadi, j'habite où Jean Racine, un bâtiment à côté du port.
Je m'appelle Kélia, j'habite dans un bâtiment, les 3 mâts, et mon bâtiment il s'appelle A.
Ben moi, quand j'étais petit, j'allais habiter à la pyramide de la Grande Motte, sauf qu'il y avait trop d'escaliers, je pouvais pas monter. On avait le vertige.
Moi, je suis de la région, je suis née à Sète, j'ai toujours vécu dans la région. Et j'ai rencontré donc mon mari à la Grande Motte il y a à peu près 14 ans. Et du coup, ben, je me suis installée à la Grande Motte. Je venais régulièrement le week-end. Quand on habite à côté, on vient régulièrement à la Grande Motte, déjà à la plage, l'été.
Et qu'est-ce que vous pensiez de la Grande Motte avant d'y vivre ?
Je pensais que c'était une ville qui était agréable, une ville balnéaire qui était agréable, mais bon... Pas aussi verte, pas aussi vivante et dynamique. C'est vrai que les gens de l'extérieur ont la sensation que c'est une ville un peu morte en hiver. C'est pas du tout le cas. C'est une ville qui est très très dynamique avec beaucoup beaucoup de choses. Il y a une maison des associations, il y a beaucoup beaucoup d'activités. Et à la fois c'est une ville qui est calme, qui est tellement verte, arborée. C'est une ville qui est assez complète, moi je trouve. Qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux personnes âgées.
Qu'est-ce que ça fait d'habiter dans des vêtements un peu trop grands ? C'est-à-dire que la ville, elle est faite pour 120 000 habitants et vous êtes 8 000 l'hiver.
Ben, c'est un confort. C'est un confort. Si on était aussi nombreux en été qu'en hiver, je ne sais pas si on s'y plairait autant. Parce que c'est vrai qu'en été, on a un peu de mal à partager notre grande motte et qu'on a hâte que les touristes repartent chez eux. Finalement, on se connaît tous, du coup, puisqu'on n'est pas nombreux. Et je trouve que c'est une qualité de vie. Donc, c'est un confort, moi, je trouve.
Ville morte.
Vous voyez pas, l'hiver. L'été, c'est
l'été,
très animé.
L'été, il y en a trop. L'été, et l'hiver, c'est trop mort.
L'été, c'est très animé.
Non, il y a la mer.
Bon,
il manque beaucoup de choses.
Qu'est-ce qui te manque ?
Ben, t'as pas de médecin,
t'as pas de
spectacle. Oh non, t'as pas de quoi te faire soigner. Dès qu'il y a quelque chose, il faut aller à Montpellier. Bon, alors il faut aller à Montpellier. T'as un cinéma un jour, une fois par semaine, un film. Il n'y a pas de théâtre et rien. Il n'y a rien pour se distraire. Le soleil sent là. Non, c'est pas... C'est vraiment une ville balnéaire. Si j'avais les moyens, j'irais ailleurs.
Où tu irais ?
Ah, j'irais ailleurs.
Mais tu te plairais pas ?
Ah, si. J'irais du côté de Saint-Raphaël, de machin comme ça, parce que ici, c'est trop mort.
C'est trop mort.
C'est trop abandonné. Et puis, bon, on a eu plusieurs mers, on a pu voir aussi l'évolution dans le mauvais sens. Non, je ne fais pas de politique, mais je veux dire, bon, il y a ça qui compte aussi. On a un maire, il n'aime que le sport.
Et les apéritifs,
voilà, le sport et les apéritifs. Non, c'est dommage. Moi, je trouve que ça a perdu de son cachet. Voilà. Mais on y reste.
Place des trois pouvoirs.
La Grande Motte, en population permanente, c'est-à-dire tout au long de l'année, c'est un peu moins de 10 000 habitants. Officiellement, nous sommes à 8 600 habitants. Hein.
Stéphane Rossignol, le maire.
Mais je pense que c'est difficile de recenser une ville comme à la Grande Motte parce que la population fluctue tout au long de l'année. Et donc, disons autour de 10 000 habitants en permanence. Et puis l'été, eh bien, c'est 100 à 120 000 personnes qui se pressent sur nos plages, dans nos rues, dans nos quartiers. Donc, on voit une population qui est multipliée par 10 à 12. Il y a quelques années, à la fin de la saison, il y avait 60% de commerces qui tiraient le rideau et qui réouvraient à Pâques, pour les vacances de Pâques. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. 70% des commerces sont ouverts quasiment à l'année. Donc en fait, la ville permanente et la ville balnéaire ne font plus qu'une aujourd'hui. on arrive très bien à assimiler. Et c'est le génie, de Jean Balladur, d'avoir su faire une ville dans laquelle on ne se sent pas dans un espace trop large à l'année et ni étroit en été. Donc l'été, je dirais que l'été, il n'y a pas de souci pour trouver à s'héberger. Mais aujourd'hui, il est très difficile de trouver des appartements pour vivre à l'année à la Grande Motte. On a beaucoup de studios. Sur les 24 000 logements que nous avons, quand je dis logements, c'est appartements, villas et maisons, nous avons environ 9 000 studios. Donc vous voyez, la proportion est quand même très importante. Donc plus difficile pour une famille avec des enfants aujourd'hui de trouver un appartement, non seulement parce qu'ils sont rares, mais aussi et surtout parce qu'ils sont chers. Le prix du foncier aujourd'hui est souvent plus élevé que ce qu'il n'est à Montpellier, qui est distant de un quart d'heure, 20 minutes. Donc effectivement, on a une pression démographique qui est ralentie par la pression foncière, puisque le foncier aujourd'hui est très limité à la Grande Motte et ne permet pas de répondre à cette forte demande, notamment des familles.
Il y a une sorte de discordance entre cette capacité économique de la Grande Motte, capable d'attirer 120 000 personnes l'été, avec 8 000 habitants permanents, 120 000 l'été, 1,5 million peut-être de personnes qui y passent. Quelle discordance! Moi je dis qu'ici il y a la capacité à faire vivre de manière permanente 20 000 habitants et de se situer en bonne place dans la hiérarchie des villes du Languedoc.
Et notamment parce qu'ici on y vit très bien. Et c'est dommage qu'il n'y ait que 8 000 personnes qui y vivent.
Autant les premiers pas ont été difficiles, autant aujourd'hui il y a une sorte de reconnaissance de la qualité des lieux. Allez, une formule banale. Pour vivre heureux, ne vivons pas cachés, vivons à la Grande Motte. Parce qu'il y a ici une capacité à générer du bonheur de vivre. C'est peut-être flatteur, et vous reconnaîtrez que je suis un peu enthousiaste, mais quel est l'espace urbain en Languedoc qui offre autant d'aménités, autant d'avantages, autant de ce qui est indispensable pour un art de vie.
C'était Sous le béton, la plage, avec Odile Bezem, Jean-Paul Vol, Claire Balladur, Laurence Grégoire, Jean Rouvière, Marc Évasion, Michel Goalard, Michel François, Jérôme Arnaud et Stéphane Rossignol. Merci aux habitants de la Grande Motte et à Catherine Simon, Archivina, prise de son Laurent Macchietti, mixage Stéphane Desmonts, attaché d'émission Christine Bernard et Alison Sinard, coordination Irène Omadianenko. Réalisation Julie Bérécy, un documentaire de Camille Jusa pour Sur les Docks.